depuis longtemps. Mais il faut pousser les gens, les femmes, à être plus actives. À mon avis, après cette révolution, on va voir beaucoup de femmes qui se révoltent contre leurs conditions de vie et la mainmise des hommes sur elles. Et à mon avis, ça va faire un grand changement.
Aujourd'hui, France Inter et Le Monde s'emparent de la question décisive du statut des femmes, un an après une révolution dont elles furent des actrices de premier plan.
Prochain rendez-vous à 17h dans le Grand Entretien, Vassila Tamzali, avocate et ex-directrice des droits des femmes à l'UNESCO, sera l'invitée de François Bunel.
À 19h20, Gilles Paris, chef du service international du journal Le Monde, répondra à toutes vos questions dans un téléphone sonne spécial présenté par Pierre Veil.
Révolutions arabes.
Révolution des femmes.
Une journée spéciale à suivre aujourd'hui sur France Inter.
Toutes les infos sur franceinter.fr.
Bon après-midi sur France Inter. Voici Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
C'est un message du Crédit Mutuel pour tous les pigeons d'Apollonia. On vous prend vos biens et vous continuez à rembourser. Allez, continuez.
Salut Daniel, salut les auditrices modestes et géniales, et surtout géniales, beaucoup plus que modestes. Ici à Montreuil, on a pris la couleur femme un peu partout, notamment une très grande banderole sur le fronton de la mairie. Et puis tout à l'heure, on va venir remplir ces banderoles qui sont pour l'instant ni rose ni bleu, mais les deux à la fois. Et on va mettre nos slogans, toujours les mêmes manifestement. Toujours les mêmes, la parité qui traîne les pieds, pas d'égalité dans les salaires, l'IVG à nouveau menacée et toujours autant de femmes maltraitées. Et pour tous les Montreuilloises et Montreuillois, regroupement autour de Thé Rouge et Pain Chaud devant la mairie à 17h30 et départ collectif pour la manif. Alors on espère que l'émission, elle prend aussi la couleur femme, comme le reste de la radio. À bientôt.
Journée de la femme, à vos aspirateurs, les belles. Je vous souhaite aussi bonne popote pour la marmaille. La corvée de linge, ce sera pour le week-end. Et puis, plein de bonnes choses au boulot, avec les copines. Parce que vous le valez bien. Aujourd'hui, je pense à vous.
Bonjour, là-bas si j'y suis, c'est Jacqueline Dambrun. Voilà, j'écoute toujours vos émissions, bien entendu. Eh bien, aujourd'hui, moi, je voulais donc vous dire que, comme c'était la journée de la femme... Je veux rappeler à toutes celles qui écoutent l'émission aujourd'hui que Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle 2012, a dit qu'elle supprimerait le remboursement des IVG si elle était élue. Alors je dis donc à toutes les femmes qui nous écoutent de dénoncer les propos de Marine Le Pen, qui sont du siècle dernier, et qui montrent dans toute sa splendeur le sectarisme du Front National. Allez, bonne journée à toutes. À bientôt.
Bonjour, monsieur Mermet. Ce matin, monsieur Sarkozy, sur la radio RMC, il nous a dit, si je perds, je me casse. Alors moi, je lui ai dit, casse-toi, riche con. Bonne journée.
Chers auditeurs modestes et géniaux, bonjour. Donc, je dois vous avouer que j'ai voté pour Nicolas Sarkozy en 2007. Cependant, je reprendrai à mon compte une vieille expression auvergnate qui dit qu'un mandat de Nicolas Sarkozy, ça va, c'est quand il y en a plusieurs que ça pose des problèmes. Merci, à bientôt.
Le caractère des Francs-Comtois, c'est quelque chose. Dans un livre écrit sur une école disparue du Haut-Jura à Bellecombe, l'ancien instituteur cite une maxime trouvée sur un cahier d'écolier de 1910. Je resterai digne et je ne m'humilierai devant personne. Bon programme, non ? L'auteur s'appelle Jean-Pierre Bouvard et raconte comment, dans les années 60, bloqué en bas par la neige un lundi matin, il arrive très en retard à l'école en classe unique. Les élèves avaient allumé le poêle et les plus grands faisaient travailler les plus petits. Voilà sur qui et sur quoi s'assoient nos élites parigotes.
Bonjour à toute l'équipe. Je voulais réagir à l'émission d'hier sur l'éducation nationale. Alors c'est vrai que les zones rurales souffrent de baisses de moyens considérables, mais je pense qu'il faut sortir de cette sorte de rivalité, entre guillemets, entre ville et campagne. Les coupes budgétaires qui affectent l'école touchent tout le monde, ou presque, et partout, ou presque, avec environ, comme vous l'avez dit, 1500 classes qui vont fermer à la rentrée prochaine. Je dis bien presque tout le monde, mais presque partout, parce que, aux surprises, les Hauts-de-Seine sont épargnés par cette casse du service public, avec 73 ouvertures de classes pour seulement 31 fermetures. C'est étonnant, non ? Mardi 6 mars, Luc Châtel était en visite à l'école Robert Doisneau de Boulogne-Billancourt, toujours dans le 92, pour vanter les mérites de l'école du futur, qui ne pouvait se trouver que dans ce département. Au fait, le 92, pour ceux qui l'ignorent, c'est le département de Sarkozy. Et moi qui croyais naïvement que les moyens de l'éducation nationale étaient alloués en fonction des besoins des élèves. Allez, à ciao. C'était Fabrice, dans l'Aveyron.
Salut Daniel, je suis à Bénarès et hier matin je suis allée voir au Burning Gat si je trouvais le photographe qui t'avait pris en photo il y a 15 ans. Il y en avait deux, il y en a un qui est mort l'année dernière et l'autre vit à Calcutta, donc pas moyen de récupérer ta photo. Voilà, sinon aujourd'hui c'est au lit, c'est la fête des couleurs et c'est pas triste. Voilà, c'était Leïla de Bénarès, salut.
Merci Leïla de Bénarès, c'est très sympa, c'est vraiment un petit signe très personnel. C'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années on était en reportage à Bénarès, sur le Burning Ghat, l'endroit, le lieu de la crémation sur le bord du fleuve. Et il y a une tradition qui veut que, avant la crémation, on fait une photo du décédé. C'est une tradition à Bénarès. Et ce photographe m'avait étonné. On l'avait suivi dans les rues de Bénarès jusqu'à sa boutique. Et là, par jeu, je lui avais demandé de faire mon portrait. Voilà, il l'avait fait. J'avais dû laisser des arts, d'ailleurs. Et puis, après, dans le feu du reportage, j'ai oublié d'y repasser. Puis, une fois ou deux, j'avais dit ça à l'antenne. J'aimerais savoir ce qui est devenu ma photo chez le photographe des morts de Bénarès. Voilà. Alors, le petit clin d'œil de Leïla. Je crains qu'effectivement, mon photographe des morts soit mort lui-même. Et je ne sais pas, par contre, ce qu'elle ne nous dit pas, c'est est-ce qu'il a été, lui aussi, dans ce champ de crémation à son tour, photographié par un autre photographe. Voilà, ça n'a rien à voir avec notre sujet du jour, mais c'était intéressant et sympathique en tout cas. Notre sujet du jour, c'est l'école. On continue. Hier, on était dans le Jura avec Gaylor, avec ses enseignants, ses parents d'élèves, ses élèves, ses élus qui se battent pour défendre l'école rurale, et pas seulement. Beaucoup d'enseignants nous ont dit « Ah, mais il n'y a pas que dans le monde rural qu'il y a des problèmes. On aurait été en ville, on nous aurait dit « Ah oui, mais il n'y a pas que dans les villes, il y a aussi dans le monde rural. » Évidemment, parce que c'est partout, cette destruction des emplois, cette destruction des postes, ces fermetures d'écoles. Mais quel sens ça ? Alors les réponses, on les devine. Ah ben, c'est la crise, ah ben, la démographie, ah ben, voilà, ou les critères européens, on se doute bien des réponses qu'on va avoir. Des chercheurs ont cherché, ils sont aperçus que c'était pas nécessairement ça, et c'est le cas de Christian Laval qu'on reçoit aujourd'hui dans La Basse, j'y suis, qui avec Francis Vergne, Pierre Clément et Guy Dreux ont écrit aux éditions de la Découverte un bouquin intitulé « La nouvelle école capitaliste ». Dans cette destruction de l'école, ils voient tout à fait autre chose que simplement des problèmes conjoncturels. Vous vous souvenez évidemment comment Pierre Bourdieu avait mis en lumière le rôle de l'enseignement ou du système éducatif, qui était la reproduction des inégalités sociales. Eh bien aujourd'hui, c'est pas seulement la reproduction des inégalités, c'est la fabrication des inégalités, c'est l'augmentation encore des inégalités entre la fabrication d'une petite élite très compétente et puis d'une masse qui s'en sortira si qu'elle se débrouille. C'est un peu ça, en caricaturant, mais pas tant que ça, finalement, le système actuel, très critiqué par nos chercheurs, notre chercheur aujourd'hui, Christian Laval, sociologue, donc, avec qui nous passons cette heure. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous. Le prochain repère de La Basse, j'y suis, de Paris 14 aura lieu dimanche prochain. Notre thème sera « Les médias et le pouvoir », un thème qui nous a été inspiré, bien sûr, par le film « Les nouveaux chiens de garde ». Que vous ayez vu ou pas le film, venez discuter avec nous. Notre repère se tient au café Le Magique, 42 rue de Gergovie, Paris 14, à partir de 20h15. À dimanche.
Bonjour. Ce dimanche 11 mars est juste un an de la catastrophe du Japon. L'association Soutien au Japon Orléans organise une vente de marque-pages avec calligraphie japonaise afin d'envoyer les bénéfices aux victimes au Japon. N'oublions pas que encore aujourd'hui, plus de 330 000 personnes vivent encore en logement temporaire après avoir tout perdu il y a un an. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.
Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, on dit non
à l'école du fric.
Cernan, dans le Jura, on arrive devant l'école du village qui a collé à la mairie. Une école rurale à l'ancienne, hein, avec la cloche, avec la petite cour en haut des marches à gauche. Hein. Et sur cette école, y a plein de banderoles qui racontent un petit peu ce qui se passe en ce moment, la lutte que mènent les parents d'élèves, les habitants des villages. Et il est écrit « Non à la fermeture d'une classe, sauvons les écoles rurales » ou encore la célèbre phrase de Victor Hugo « Ouvrez une école, vous fermerez une prison ».
L'éducation nationale à la française n'est plus un modèle. Année après année, elle perd des places dans les classements internationaux.
France 3, 26 avril 2011.
L'écart entre les élèves brillants et ceux en situation d'échec, toujours plus nombreux, se creuse. Mais selon le ministre Luc Chatel, ce n'est pas une raison pour remettre en cause les coupes budgétaires.
Combien de classes fermées du coup ? 2000 ?
Environ 1500.
Nicolas Sarkozy l'a annoncé ce matin lors de l'inauguration d'une prison en Seine-et-Marne.
BFM TV, 13 septembre 2011.
Le gouvernement va présenter au Parlement un projet de loi de programmation sur l'exécution des peines. Premier objectif, atteindre un total de 80 000 places de détention.
Cela représente un effort d'équipement sans précédent qui sera achevé en 2017. Il nous conduira donc à créer 30 000 places de prison supplémentaires.
Selon les syndicats d'enseignants, ces fermetures de classes vont principalement toucher les zones rurales qui servent souvent de variable d'ajustement pour les rectorats. Mais elles menacent plus généralement la qualité de l'enseignement sur l'ensemble du territoire.
Deuxième chantier, la délinquance des mineurs. 20 nouveaux centres éducatifs fermés seront créés. Mais surtout, Nicolas Sarkozy annonce l'encadrement militaire des jeunes délinquants.
Le primo délinquant mineur sera soumis, disons les mots, à une discipline stricte. Et ça lui fera le plus grand bien.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Christian Laval, la lutte des classes. Pourquoi veulent-ils casser l'école ? Flight number 2, arriving from... Alors, Christian Laval, 16 000 postes d'enseignants supprimés en 2011. Au total, 80 000 postes supprimés en 5 ans dans le primaire et le secondaire. 1 500 classes fermées à la rentrée 2011. Enfin, c'est un véritable champ de ruines qui se présente devant nous quand il s'agit d'envisager la situation de l'enseignement en France. Or, vous vous répondez à une question que vous vous posez. Pourquoi casse-t-il l'école ? Pourquoi est-ce qu'on casse l'école de cette façon ?
D'abord, je rappellerai, pour compléter ce que vous venez de dire, que l'hémorragie va continuer. En tout cas, ce qui est annoncé pour la carte scolaire 2012-2013 est aussi terrible, puisque le gouvernement actuel a prévu la suppression encore de 14 000 postes. Alors donc, c'est évidemment quelque chose de catastrophique. On peut le dire comme ça, dans la mesure où il ne faut pas oublier que la démographie va dans le sens d'une augmentation des effectifs, aussi bien dans l'école élémentaire que dans le collège et puis dans le lycée. Il faut quand même se souvenir que cette destruction de postes arrive à un moment où il y a une augmentation démographique et que, de ce point de vue-là, la France fait un peu exception en Europe. Il y a, depuis 1994 à 2008-2009, près de 100 000 naissances en plus. Donc, ils ne sont absolument pas pris en compte. Or, on sait aussi que, et l'OCDE, pour le coup, a la vertu de le montrer, que le taux d'encadrement des élèves par les enseignants est particulièrement faible. Nous sommes en dessous de la moyenne. Alors, la question, c'est, au fond, pourquoi un gouvernement s'acharne-t-il à cette destruction des postes? Alors, la réponse immédiate, c'est budgétaire. On sait que... il faut que le budget est sous la dépendance des marchés financiers, qu'il y a 50 milliards d'intérêts à payer à ceux qui nous prêtent de l'argent, etc. Donc il y a toute une série d'arguments qui vont dans ce sens. Et en même temps, on voit bien que cette destruction de postes hypothèque l'avenir de la formation, l'avenir du pays, l'avenir même de l'efficacité économique à long terme. Donc au fond, on peut se poser la question de la rationalité de cette destruction-là. En réalité, il y a deux options qu'on peut prendre. Soit on se dit, ce gouvernement de droite, finalement, ont toujours détesté l'école, ne voient pas l'intérêt de promouvoir non seulement la culture, on se rappelle les épisodes de mépris à l'égard de la culture, de la princesse de Clèves, etc. On peut se dire également que ces gouvernements de droite sont hostiles à des
politiques... Ce gouvernement ou ces gouvernements de droite?
Je dirais que ce gouvernement, les gouvernements sous la période Sarkozy, d'une certaine façon, a montré un visage particulièrement radical. Mais il est vrai que les gouvernements de droite en général n'ont pas fait de l'éducation une priorité.
Je sais bien que aujourd'hui il y a des protestations.
Nicolas Sarkozy.
C'est normal dans une démocratie.
27 septembre 2011.
Et mon devoir de chef de l'État, c'est d'abord de penser aux ouvriers, aux salariés et aux cadres qui sont lancés dans la compétition internationale et qui ont besoin du soutien de l'État. Plus que de penser à ceux qui ont un travail difficile, mais qui ont un statut qui les protège.
Et je voulais dire que ce qui caractérise ces gouvernements de droite, c'est que l'égalité, la promotion de l'égalité, n'est pas leur priorité. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que leur modèle d'école, c'est celui de la concurrence. C'est-à-dire l'idée que si l'on crée un dispositif concurrentiel à l'université, dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement primaire, enfin partout, et on dégagera de façon économique une élite, un petit groupe d'excellence, le mot excellence revient partout dans tous les discours de la droite, une petite élite qui sera compétitive sur le plan mondial. D'une certaine façon, on applique systématiquement à l'école un schéma de pensée qui est celui de la mondialisation libérale et capitaliste. C'est-à-dire qu'au fond, on met l'accent sur un petit nombre de champions hyper compétitifs qui seraient formés dans des établissements d'excellence, qui recruterait donc un tout petit nombre de gens et qui seraient les champions, les combattants dans le monde du nouveau capitalisme mondialisé et financiarisé. Au détriment du reste, au détriment d'une population qui finalement devrait se contenter, je dirais, d'un socle minimal de formation pour pouvoir tenir des fonctions subalternes. Et au fond, on est, je crois, dans cette idée qu'il faudrait une école, une université à deux vitesses, et que cette université, cette école à deux vitesses serait rationnelle.
Pépinière de 25 hectares pour des jeunes pousses qui ne devraient y manquer de rien.
LCI, 30 septembre 2009.
Ils disposent déjà d'une salle de cinéma, bientôt d'un centre équestre, un luxe pour des adolescents presque tous issus de milieux défavorisés. Mais la sélection fut rude, choisie pour leur pertinence scolaire. Les lauréats ont dû défendre leur candidature. Ici, tout est fait pour réussir. Chacun a bénéficié d'une bourse. L'internat est obligatoire pour baigner 24 heures sur 24 dans la connaissance et le savoir. Plus d'heures de cours sont dispensées à des élèves moins nombreux. Il accueille 120 élèves pour l'instant. À terme, plus de 500 répartis dans des classes allant de la 6e aux classes préparatoires.
Pourquoi veulent-ils casser l'école avec Christian Laval? Évidemment, une question se pose, c'est où est-ce que tout ça est écrit? Où est-ce qu'on peut lire ça? Y a-t-il des documents qui viennent à l'appui de ce qui est dit?
C'est-à-dire que ce qui est absolument terrible, c'est que tout est écrit. Les travaux qu'on a menés, en particulier dans l'Institut de recherche de la FSU, ont été des travaux qui ont permis de montrer, d'exposer toute une littérature qui est une littérature, je dirais, de différenciation entre les écoles, etc. C'est quoi cette littérature ? C'est celle des experts internationaux qui, à la Commission européenne, à l'OCDE, etc., théorisent l'idée que l'éducation est désormais un service rendu à l'économie. Quelle économie ? L'économie de la concurrence à outrance généralisée au niveau mondial, avec l'idée que on a besoin donc de cette petite élite formés donc dans ces établissements d'excellence et qui seront les porteurs du progrès, les sources de la compétitivité et de la performance. Donc, je crois que rien n'est caché, d'une certaine façon. Il ne s'agit pas d'interpréter les textes, il s'agit simplement de les exposer. Je crois que le mot important, le terme important, c'est celui de néolibéralisme. Il faut vraiment rappeler que le modèle d'école et d'université qui est en train de se mettre en place, très progressivement, se fait selon un schéma proprement néolibéral, dont la norme est la concurrence et dont le modèle est l'entreprise. Sorti de là, finalement, je crois qu'on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Derrière la casse dont on a parlé, il y a la transformation profonde du modèle d'éducation. Le lien entre les deux, c'est quoi ? C'est ce que Benoît Apparu a dit un jour sur un chat du Monde. Si on enlève des moyens à l'école, on forcera l'institution à se refaçonner selon la logique entrepreneuriale. C'est ça la clé stratégique de la mutation actuelle de l'école.
Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer malgré tout qu'il y a quand même un peu de graisse sur le mammouth, qu'il y avait de la graisse sur le mammouth ?
Ben, je ne sais pas ce que vous appelez graisse sur le mammouth. On voit que vous avez le souvenir de Claude Allègre,
voilà.
qui, effectivement, il y a un peu plus de 10 ans, avait mené campagne au sein d'un gouvernement de gauche à l'époque. Voilà. Je crois même qu'on parlait d'une gauche plurielle, qui disait au fond que le grand problème de l'éducation, c'est qu'il y avait trop d'enseignants, qu'il y avait trop de personnel administratif, etc. En complète contradiction avec déjà ce qui était particulièrement visible dans les chiffres de l'OCDE, c'est-à-dire une baisse du taux d'encadrement. Donc, en effet, c'est peut-être là la faute majeure de ce gouvernement de gauche entre 1997 et 2002, de n'avoir pas fait réellement de l'encadrement des jeunes, qui étaient déjà plus nombreux démographiquement, une vraie priorité. Sans oublier une chose qui est revenue récemment sur le tapis, à savoir que les enseignants français, ne l'oublions pas, sont sous-payés. C'est-à-dire que, au fond, les gouvernements de gauche et de droite sont plutôt d'accord sur l'idée que la revalorisation générale des salaires enseignants n'est pas une priorité.
Fraîchement nommé ministre de l'Éducation nationale, Claude Allègre donne le ton.
France 2.
Le 24 juin 1997, dans les colonnes du journal Le Monde, il annonce son intention de dégraisser le mammouth.
19 février 1999.
Les hostilités sont ouvertes. 4 septembre, c'est la rentrée des classes. Le bouillonnant ministre mène une attaque frontale.
Il y a beaucoup trop d'absentéisme dans l'Éducation nationale et il faut mettre fin à ça.
5 jours plus tard, il récidive dans le même registre.
Les gens de la fonction publique, ils ont un mois de vacances. Les enseignants, ils ont 4 mois de vacances. Et ils prennent les congés formation en plus sur la scolarité.
Claude Allègre joue l'opinion publique, plutôt séduite par son franc-parler, contre les syndicats. De son côté, le Parti socialiste craint de perdre son électorat traditionnel. Claude Allègre doit lâcher du lest.
Parce que j'évoquais Claude Allègre à cette époque, des gouvernements de gauche plurielle, comme vous dites, parce qu'on pourrait imaginer que ce gouvernement actuel, gouvernement de droite, en précarisant et en déstabilisant ce corps enseignant, vise un monde social plutôt centre-gauche-gauche, et qui est donc adversaire du gouvernement actuel. Or, vous dites, ben non, parce que auparavant, les gouvernements de gauche n'ont pas fait une politique si différente. En fait, ce à quoi on assiste aujourd'hui depuis 5 ans avec le gouvernement Sarkozy était déjà en route avec les gouvernements de gauche précédemment, si on vous écoute.
Oui, alors évidemment, je l'ai quand même souligné, avec les gouvernements de droite, on a affaire à une politique radicale et caricaturale. Ceci dit, la nouvelle école capitaliste, comme je l'appelle, cette nouvelle école capitaliste se prépare depuis beaucoup plus longtemps. C'est un modèle qui commence à se construire dans les années 80 et qui se construit dans ces lieux. Bourdieu parlait des lieux neutres, c'est-à-dire de ces commissions, de ces institutions internationales, financières, économiques, etc., dans lesquelles, finalement, s'est développée l'idée de cette nouvelle école gouvernée par l'impératif économique et la norme de l'employabilité. Ce modèle a été construit à la fois par des experts de gauche et des experts de droite. Au fond, ce modèle fait consensus. Il a fait consensus. Il suffit, par exemple, d'évoquer la stratégie de Lisbonne en 2000, en mars 2000, qui a été mise en route par, à l'époque, une Union européenne dans laquelle une majorité des membres étaient gouvernés par des partis de gauche ou des alliances avec des partis de gauche en Europe. Donc ce modèle, à la limite, je vais peut-être être un provocateur, il n'est ni de gauche ni de droite, d'une certaine façon. C'est un modèle économique néolibéral qui s'applique dans tous les pays, qui est la référence, en tout cas, de tous les pays européens, et qui est aussi un modèle dominant à l'échelle mondiale. D'où le fait que le combat ne peut pas être que français. On ne peut pas simplement enfermer la question de l'école, du modèle d'école, dans l'hexagone. Le combat, il est forcément mondial parce que le modèle lui-même a été conçu comme un modèle qui doit s'appliquer universellement.
Luchâtel, demain, il y aura la présentation de la nouvelle loi de finances.
France Inter, 27 septembre 2011.
En Conseil des ministres, allez-vous confirmer la suppression de 14 000 postes à la rentrée prochaine?
Mais le président de la République a eu l'occasion d'expliquer à plusieurs reprises qu'il s'était engagé vis-à-vis des Français à ne pas remplacer la moitié des fonctionnaires qui
donc
partent en retraite.
Oui.
Donc, nous ne remplacerons pas la moitié des enseignants qui partent en retraite l'année dernière, c'est-à-dire environ 14 000 personnes.
Et il nous reste 30 secondes, Luchâtel. Gagner un peu moins de 2 000 euros au bout de 10 ans d'ancienneté. Est-ce que vous pensez que c'est motivant pour un enseignant?
Je pense que c'est insuffisant, et je l'ai dit à plusieurs reprises, quand on compare la rémunération de nos enseignants et ce qu'elle est dans d'autres grands pays développés, nous avons à progresser, mais les finances de l'État sont telles qu'on ne pourra pas progresser en augmentant le nombre de fonctionnaires.
Christian Laval, dans votre bouquin, vous dites « Nous vivons la revanche de l'argent ». Sur la culture. Ce serait ça le grand basculement.
Alors, l'une des formes du basculement, c'est quoi? C'est d'une part le fait que le modèle est l'entreprise, la logique et la concurrence. Mais dans ce nouveau dispositif-là, les phénomènes de reproduction, qui sont des phénomènes anciens évidemment, sont modifiés. On pourrait dire, pour simplifier, que ce que Bourdieu avait analysé en termes de transmission du capital culturel reste toujours valable, mais renforcé par le poids de plus en plus grand du capital économique. Je veux dire par là que les phénomènes de privatisation, les phénomènes de marchandisation, en particulier du soutien scolaire, le prix de plus en plus élevé des formations universitaires, donnent un poids plus grand à l'argent. On pourrait même regarder que les choix d'établissements sont de plus en plus faits en fonction, je dirais, du recrutement bourgeois de ces établissements, etc. De sorte qu'il importe pour les familles, dans leur stratégie, d'habiter dans des endroits où ils peuvent trouver à proximité des établissements dits de qualité, donc à payer un prix de l'immobilier particulièrement élevé. Finalement, ce que l'école offrait comme chance, très relative, hein, de promotion aux catégories les moins fortunées, tous ces petits avantages, ou en tout cas ces petites chances, sont en train de diminuer. De plus en plus, il faut avoir de l'argent pour aller dans des écoles, en particulier je pense aux écoles de management, qui sont extrêmement chères. Il faut donc, d'une certaine façon, bien considérer que ce sont les classes les plus riches qui, aujourd'hui, modèlent un système d'enseignement à leur guise et à leur avantage.
Oui, vous évoquez Bourdieu et son travail sur la reproduction. Comment, dans les années 70, il a montré, lui et ses équipes, comment l'enseignement était le lieu de la reproduction sociale, contrairement à ce qui était prétendu et ce que l'on croyait, c'est-à-dire que c'était le lieu où les plus modestes avaient leur chance, ce que vous venez de dire, vous venez de qualifier de petite chance, qui était offerte à certains, de monter, de prendre une échelle. Et il a montré, à travers un travail scientifique de sociologie, que c'était pas tellement le cas. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a un regret. Alors, bien évidemment, le passé est toujours joli, la nostalgie opère, mais ça nous éloigne de la vérité. Parce que on se demande s'il faut vraiment regretter l'école des années 50 ou 60, où, la discipline était souvent extrêmement brutale, et finalement, où on reproduisait bel et bien les inégalités et où l'adaptation aux exigences économiques était la règle également.
Oui, alors là je crois qu'il faut un peu nuancer, ou plutôt, il faut rappeler qu'en effet, et là vous avez tout à fait raison, il n'y a pas de nostalgie à avoir, il n'y a pas eu d'âge d'or de l'école. L'école a été effectivement une institution qui a reproduit les classes sociales, ça a été une machine à trier. Et là, les travaux des sociologues des années 60-70 ont été particulièrement clairs et d'ailleurs très efficaces, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement dévoilé ces phénomènes de reproduction. En particulier, donc, en soulignant le fait que, selon les milieux sociaux, le capital culturel, pour reprendre cette expression de Bourdieu, était extrêmement différent et donc joué de façon très différente dans l'école et déterminé des réussites scolaires très différentes et donc des parcours sociaux très différents. Bon. Il faut en même temps rappeler que cette école ne se voulait pas strictement dépendante de l'économie. Ou plutôt, l'école s'est construite de façon extrêmement lente, etc. Bon. Elle s'est construite avec l'idée qu'elle avait ses propres règles, ses propres contenus, ses propres exigences. Elle s'est inscrite dans une tradition humaniste où il s'agit de former l'homme dans sa dignité, intellectuelle en particulier et morale. Elle s'est constituée dans un espace politique qui se voulait républicain à la fin du 19e siècle et donc elle a voulu aussi former un citoyen et pas seulement, je dirais, adapter une force de travail. En d'autres termes, l'institution scolaire avait son autonomie. Et dans le cadre de cette autonomie très relative, je
vous l'accorde... C'était donc l'homme, le citoyen et le travailleur.
Et le travailleur. Alors, en fait, ce triptyque est important à rappeler parce que, effectivement, on peut toujours dire que c'était un leurre et que l'école était d'emblée entièrement capitaliste. Moi, je ne crois pas qu'elle était entièrement capitaliste. Je crois qu'elle a laissé la possibilité, elle a laissé une certaine marge de manœuvre à des enseignants progressistes pour introduire des contenus qui n'étaient pas strictement commandés par les impératifs économiques ou par les exigences de docilité sociale. Des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'enseignants, depuis la fin du 19e siècle, ont introduit autre chose et ont préparé autre chose. Mmh. Ils ont préparé en particulier des gens qui avaient un minimum d'armes critiques, qui ont pu l'utiliser dans des combats sociaux, en tant que syndicalistes, en tant que citoyens engagés dans des associations, etc.
Et même pour trouver du boulot.
Et même pour
Parce
trouver
que,
du boulot.
Ce que disent un certain nombre de spécialistes, je pense à Normand Baillargeon, notre ami québécois, mais à beaucoup d'autres, c'est que celui qui est doté d'une culture générale et qui dispose, comme vous dites, pour reprendre vos termes, d'armes critiques, risque de s'en sortir mieux en matière d'emploi dans les difficultés terribles actuelles que celui ou celle qui est spécialisé et rien d'autre.
Vous avez tout à fait raison. Au fond, pour utiliser peut-être un mot un peu sec, si je puis dire, ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui, c'est à une nouvelle barbarie. C'est-à-dire, finalement, à l'idée que la seule formation qui compte est une formation strictement, étroitement professionnelle. Or, toute la tradition, et là, on peut évoquer et s'appuyer sur cette tradition de la culture générale, qui est une tradition qui remonte au moins à l'humanisme, eh bien, veut que l'homme ne se réduise pas à sa fonction économique, mais qu'il là à disposer d'instruments intellectuels, d'outils intellectuels qui lui permettent de rendre le monde intelligible, d'introduire de nouveaux rapports plus civilisés avec les autres, etc. L'école, elle est fondée quand même là-dessus. Alors, on peut donner, évidemment, de cette culture générale et de cette transmission culturelle un sens complètement, intégralement conservateur, mais on peut également lui donner un sens progressiste. C'était par exemple la grande leçon de Jaurès en France, qui disait au fond que tout enfant, quel que soit son milieu, doit être introduit à cette culture générale pour pouvoir disposer justement des instruments de son propre développement et du développement du peuple lui-même. Au fond, une école prépare le peuple de demain avec les acquis du peuple d'hier. Et c'est précisément ce que la réforme actuelle de type néolibéral et capitaliste veut réduire à rien. Précisément parce qu'il y a un danger dans cette école qui transmet une culture générale dégager des impératifs économiques qui ne se réduit pas à la préparation d'une force de travail, il y a un danger, c'est de donner à des individus eh bien, les moyens de se dégager des contraintes économiques, de se penser comme des êtres libres qui peuvent transformer la société. Au fond, ce qu'on voudrait éviter, me semble-t-il, c'est que des individus se disent qu'ils ont les moyens de lutter et de changer l'ordre des choses. C'est ça qui est au fond, la cible ultime d'une réforme qui est une réforme intégralement utilitariste, hyper utilitariste.
Ce qui compte, c'est que toute l'institution scolaire accepte de travailler avec tous ceux qui connaissent l'entreprise ou représentent l'entreprise.
Laurence Parisot.
Bref.
22 novembre 2011.
Je crois que ce qui est absolument indispensable aujourd'hui, c'est de réfléchir ensemble, d'avancer ensemble, professeurs, élèves, parents d'élèves, chefs d'entreprise, et essayons de cheminer ensemble pour trouver une voie commune. Il y a, je crois, beaucoup à gagner si on finit par faire comprendre que dans les filières littéraires, sociologiques, on apprenait un tout petit peu d'entreprise. Eh bien, moi, je peux vous dire que de mon côté, au MEDEF, on fera du coup aussi comprendre aux entreprises qu'il y a là des jeunes femmes, des jeunes hommes qui certes ont choisi a priori une carrière ou sont intéressés par une approche peut-être un peu intellectuelle des choses, mais qui peuvent apporter beaucoup à l'économie et à l'entreprise.
Et donc Ornicard, nous sommes tous allés voter, pensant bien qu'à l'Assemblée on fait les lois pour l'équité. Où sont donc sur Ornicard les conjonctions dont vous parlez? Car force est de constater que les portes sont bien fermées à clé. Barataclao,
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 barataclao. L'histoire se passe à notre insu,
barataclao,
dans les salons les plus cossus,
barataclao,
les décisions les plus values,
barataclao.
Et tout ça finit dans la rue.
Baratata.
On jette l'eau du bain avec l'ONU.
Baratata.
Voici la GCS et toute la clique.
Baratata.
Vous matez le service public.
Baratata.
On dit qu'il est caduque, inique.
Baratata.
Pour les libéraux les plus cyniques.
Baratata.
Tout passe par l'économique.
Baratata.
Comme on dit qu'on connaît la musique.
Baratata.
Il nous crée des sigles qui compliquent.
Baratata.
Pour que le quidam n'y comprenne quick.
Baratata.
Tout ça finit par laisser quoi.
Baratata.
Le temps est bien à l'argent roi. On dit que l'argent c'est du temps,
Baratata.
On n'a plus le temps de prendre le
Baratata.
Temps. Mais où est donc Ornicard? Nous sommes tous allés voter, pensant bien qu'à l'Assemblée on fait des lois pour l'équité. Nous sommes donc sur Ornicard, les conjonctions dont vous parlez, car force est de constater que les portes sont bien fermées à clé.
Barataclao,
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 Barataclao.
Christian Laval, les élections approchent, les candidats, contrairement à ce qu'on pourrait croire en écoutant certaines radios et en regardant certaines télés, ont malgré tout des programmes, on n'en parle pas beaucoup, on parle de des vannes qu'ils s'envoient ou de sondages qui montent et qui baissent, mais derrière ça quand même, les uns et les autres, en cette matière par exemple de l'éducation, de l'enseignement, ont bel et bien des projets. Alors, très rapidement,
Est-ce que vous pouvez faire un panorama des projets dans ce domaine ?
Ben, écoutez, il y a d'abord le programme du candidat président et le programme de l'UMP qui l'accompagne. Pour le coup, ce projet est extrêmement intéressant et instructif. Je crois que tout le monde devrait regarder de près ce que Sarkozy et l'UMP proposent. Pourquoi ? Parce que finalement, il s'agit du programme le plus clair, le plus explicite qu'on ait jamais eu en France de cette nouvelle école capitaliste. Avec une logique entrepreneuriale radicalisée, une précarisation poussée à son maximum, une individualisation des carrières qui vise à faire exploser le corps professionnel, à même détruire intégralement le corps professionnel des enseignants pour réduire à rien finalement les possibilités de résistance à venir face aux transformations dont nous parlons. Et donc une logique qui est purement intégralement néolibéral. Donc en ce sens...
C'est intéressant, il faut s'y intéresser.
C'est intéressant.
Alors vous venez à la maison quoi, le vendredi ?
Le vendredi soir.
De la 6e à la 1ère, cet internat d'excellence accueille 285 élèves, surtout issus de milieux défavorisés.
TF1, 28 février 2012.
Ils sont 10 000 en France à bénéficier de ce dispositif innovant dont l'éducation nationale a grand besoin, selon Nicolas Sarkozy.
Ici, on met des enfants qui peuvent avoir des problèmes à l'école, mais qui se donnent du mal.
Et des innovations, il en annonce ce soir. Une réforme du collège unique avec moins de discipline en 6e et en 5e et des professeurs plus polyvalents. Plus d'autonomie pour les établissements dont les directeurs pourraient recruter librement les enseignants.
Dans la classe.
Enfin, ils souhaitent des professeurs qui devraient être présents plus longtemps, 26 heures au lieu de 18 aujourd'hui, et qui en contrepartie seraient augmentés de 500 euros environ par mois.
Je fais le choix. C'est mon choix que je propose. Je fais le choix de moins d'enseignants, mieux rémunérés. Ce choix doit être clair. Il n'y a qu'une solution. Faire travailler les enseignants plus longtemps en les payant davantage.
Du côté de Hollande et de son conseiller Vincent Peillon, les choses sont plus compliquées. L'école redevient une priorité, l'école n'est plus l'objet de ces réductions dramatiques et catastrophiques d'emplois, et en même temps, on se pose toute une série de questions. Pourquoi ne pas remettre en cause radicalement la logique managériale et entrepreneuriale ? Pourquoi la LRU, c'est-à-dire la loi relative aux libertés et responsabilités à l'université, n'est-elle pas remise en cause ? Au fond, j'ai une crainte. C'est celle d'une adhésion honteuse du candidat socialiste au modèle dominant. Ce modèle dominant, encore une fois, qui a été mis en place il y a plus d'une dizaine d'années, par des gouvernements de gauche. Donc, au fond, est-ce que le candidat socialiste est prêt à la rupture avec le modèle néolibéral d'école et d'université ? Voilà la question que je me pose. Autre inquiétude, c'est le grand silence sur la revalorisation du métier d'enseignant, qui est une condition indispensable pour la revalorisation de la dignité de la fonction et pour remédier à une chose très, très prosaïque et très immédiate, qui est la crise de recrutement des enseignants.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de monde qui veut être enseignant aujourd'hui.
Ben, d'ores et déjà, on l'a vu l'année dernière au concours du CAPES, il n'y a pas assez de candidats dans un grand nombre de matières. Il y a pratiquement autant de postes que de candidats. Et les choses vont s'aggraver, puisqu'on sait d'ores et déjà que dans un certain nombre de formations universitaires, il n'y a pas assez d'étudiants pour remplir les postes à venir. Donc comment va-t-on faire pour remplir les 42 000 postes prévus par an.
Économiser. Licencier.
Allô Daniel.
Bonjour Daniel.
Bonjour à tous. Voici un message de Lozerte dans le Tarn-et-Garonne.
Dégraisser. Supprimer.
J'habite un petit village en Auvergne qui s'appelle Lachaud.
Rationaliser.
Voilà, nous sommes tous les parents de l'école publique de Violet.
Fillon et Sarko. La garde des parisos, apprennent à conjuguer. Éduquer.
Éduquer. L'école élémentaire du village compte 4 classes et nous avons appris qu'une classe allait être fermée l'année prochaine.
Partager.
Partager. Nous sommes tous dans la cour parce que l'inspection académique veut fermer la 4e classe de cette école.
S'entraider.
S'entraider.
Christian Laval, alors, avec Francis Vergne, avec Pierre Clément et avec Guy Dreux. Vous avez pondu ce bouquin à la découverte, La Nouvelle École Capitaliste, et vous avez un projet. Vous avez le projet d'une école post-capitaliste. Alors à quoi ça pourrait ressembler ?
Ben, une école capitaliste, post-capitaliste, pardon, ça serait justement une école qui d'abord serait en rupture avec la logique dominante dont j'ai parlé, c'est-à-dire le modèle d'entreprise et la logique de la concurrence. Nous, nous parlons d'école, de nouvelle école démocratique ou d'école commune, enfin peu importe l'expression que l'on utilise. Je crois qu'elle aurait comme idée de réintroduire du commun dans la pédagogie. Et là, je crois qu'il faut mettre l'accent sur la coopération plutôt que la compétition. Je crois que c'est essentiel dans l'idée que on n'apprend pas contre les autres, on n'apprend pas pour écraser les autres, on apprend pour les autres, avec les autres. Ça, c'est un point fondamental d'esprit de l'institution. Il faut toujours, dans une institution, considérer son esprit. La nouvelle école capitaliste, elle est dominée par cet esprit du capitalisme, cet esprit de la compétition. Il faut renverser les choses et aller dans un tout autre sens. Ensuite, il faut que l'école prépare, bien sûr, des travailleurs. Nous ne sommes pas contre l'idée que, évidemment, nous ayons à produire nos moyens de vie. Mais il faut aussi que l'école prépare des travailleurs qui soient aussi des citoyens, et des citoyens dans l'entreprise, qui puissent avoir les moyens d'introduire de la démocratie partout, y compris dans le monde du travail. Donc cela signifie qu'il faut des contenus pédagogiques, des contenus d'enseignement qui soient des contenus critiques. Une culture commune qui soit... qui prépare les élèves justement à s'affirmer comme des citoyens partout où ils se trouvent. Et pas seulement une fois tous les 5 ans pour mettre un bulletin de vote. Et puis il faut aussi introduire de la démocratie dans les établissements. Il ne faut pas continuer dans la voie du managérialisme tel qu'on le pratique aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée qu'un seul homme ou femme, un patron dirige tout et considère les autres enseignants, les personnels comme des purs exécutants et les usagers de l'école comme des clients. Ce n'est pas tenable. Il faut rompre avec cette logique et introduire donc beaucoup plus de démocratie dans les établissements, de la collégialité. La collégialité, ne l'oublions pas, est à la racine de l'école. On parlait bien au Moyen-Âge de collège, c'est-à-dire finalement de réunions d'enseignants qui déterminaient, qui s'auto-déterminaient dans leur choix. Donc il faut à la fois dans les contenus, dans les formes pédagogiques et dans les modes de gestion de l'école, du commun. Et c'est, je crois, un vaste chantier. Nous ne prétendons pas résoudre la question, mais je crois qu'il faut mettre ensemble toutes les forces, les associations, les syndicats, les partis...
À l'échelle européenne.
Et à l'échelle européenne. Mmh. Alors là, vous avez tout à fait raison de le souligner. Le modèle dominant est un modèle européen. Il s'applique partout. Les structures éducatives sont certes différentes dans chacun des pays du fait de l'histoire, mais en même temps, les réformes sont toutes convergentes vers le même modèle. Mmh. Donc, le mouvement de contestation et le mouvement de protestation doit être européen. Il s'agit d'imposer désormais un nouveau modèle éducatif dans les structures nationales et européennes.
On veut nous fermer l'école.
Redistribuer.
La carte scolaire de la Loire supprime 54 postes en primaire.
Émanciper.
Nous avons besoin d'enseignants pour les enfants. Nous avons besoin de classes à effectifs réduits.
Économiser.
Donc bah là on s'est organisé, hein. On occupe l'école, les mémés nous ont filé des draps, on fait des banderoles.
Dégraisser.
Nous refusons cette fermeture en tant que parents, en tant que citoyens.
Supprimer.
Est-ce qu'il peut y avoir des expériences en îlot? Comme ça, je pense à l'école Freinet, je pense à certaines expériences. Je me souviens d'un ouvrage qui avait fait grand bruit au début des années 70, qui s'appelait « Libre enfant de Summerhill », qui avait été publié chez Maspero et qui racontait une expérience pédagogique extrêmement libertaire et qui fascinait les parents, les jeunes parents de cette époque-là. Est-ce qu'on peut avoir des expériences comme ça ?
quelles sont les possibilités par rapport à ce que vous dites. Vous vous rendez compte, vous êtes en train de nous dire, oui, il faut l'Europe, etc. C'est tellement loin, c'est tellement long. On a envie, si on est parent aujourd'hui, de dire, allez, hop, on va dans notre village, là, dans notre quartier, on va essayer de faire un truc. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça marche, ces expériences-là?
Ben, écoutez...
C'est tentant.
Oui, c'est évidemment tentant de se mettre complètement à l'écart du système et d'essayer de faire un îlot de socialisme. J'évoquais tout à l'heure Jaurès qui disait qu'au fond, vouloir créer l'école socialiste dans un monde capitaliste serait créer une monstruosité. Que voulait-il dire par là? Il était peut-être un peu trop sec, mais il voulait dire au fond qu'il y a une utopie tout à fait vaine de vouloir créer finalement quelque chose qui serait complètement contraire à la logique de Ce qu'il disait par contre, c'est qu'il faut penser ensemble la transformation de l'école et la transformation de la société. C'est-à-dire, au fond, bien comprendre qu'on n'arrivera pas à construire une école alternative nouvelle si l'on ne change pas du même pas la société. C'était le vrai socialisme français, c'est-à-dire un socialisme qui était un socialisme révolutionnaire, qui voulait transformer la société et transformer l'école, qui ne voulait pas faire comme certains ont voulu le faire dans les années 80, c'est-à-dire un changement d'école pour changer la société. Parce que ça, c'est une impasse. On ne changera pas l'école toute seule et on ne pourra pas s'appuyer simplement sur le changement d'école pour changer la société. Ça, d'une certaine façon, c'est l'expression d'un renoncement. Renoncement à quoi? Au changement de la société. C'est bien ce qui s'est produit dans ces années 80 où les socialistes au pouvoir ont simplement changé de programme et ont retourné leur veste. Et on dit, au fond, on ne pourra pas changer la vie comme ils le prétendaient. Il faut adapter les structures économiques françaises au capitalisme mondial. Et donc, ils se sont finalement porté sur l'école en disant, bien voilà, c'est l'école qui devra, elle, égaliser les chances. Chose totalement impossible. Voilà, alors, je n'ai pas complètement répondu à votre question. Je voulais simplement mettre en garde contre, je dirais, une certaine utopie locale. Bon, je crois néanmoins qu'il faut aller aussi dans l'autre sens et dire que la transformation de l'école s'appuiera forcément sur des pratiques nouvelles. Et que ces pratiques nouvelles, on n'attendra pas le grand soir pour les inventer. Et qu'elles se... constitue, qu'elle s'invente dès aujourd'hui. Vous avez évoqué Freinet, on pourrait évoquer de multiples courants, celui de la pédagogie institutionnelle qui est particulièrement intéressant justement par l'idée d'une coopérative, si je puis dire, permanente dans les processus d'apprentissage. On pourrait évoquer de multiples mouvements qui essayent de faire autre chose. Et puis, des enseignants qui, dans leur classe, finalement, ont des pratiques qu'on pourrait dire progressistes. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'essaient pas d'écraser les élèves, etc. Bon, alors, ce qu'il faudrait peut-être faire aujourd'hui, c'est recomposer ce corpus des expériences, des pratiques et des théories. C'est-à-dire refonder au fond un véritable projet pédagogique nouveau en l'inscrivant bien dans un projet politique qui soit cette réintroduction du commun dont je parlais.
En attendant, dans notre émission, il n'y a pas un jour sans qu'on reçoive des informations d'enseignants qui se mobilisent, des parents d'élèves qui font des marches, qui occupent un établissement, qui se défendent, qui se battent dans les moindres recoins de France. Il y a quand même un combat continu qui n'arrive pas toujours dans les radars des médias, mais c'est là et c'est tenace.
En effet, on n'en parle pas assez. Ces luttes, elles ont lieu partout, toujours. Et quant aux destructions de classes, il faut bien se rendre compte que depuis plusieurs années, il y a ce que j'appelle une jacquerie diffuse en France. Mmh. C'est-à-dire que...
Une jacquerie diffuse, c'est-à-dire dans tous les...
Oui. Vous traversez la France en voiture, vous traversez des villages où vous voyez des banderoles, nous défendons notre école, nous sommes contre les suppressions de classes, etc. C'est-à-dire qu'il y a... En effet, dans la population française, une mobilisation permanente contre cette catastrophe dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cette destruction de postes et de classes.
Moi je tranche et je rabote, moi je rabille et je pinaille, moi je rogne et je chipote, moi je rabote et discutaille.
Si t'es trop vieux, je te remplace pas. Si t'es trop jeune, je t'embauche pas.
Je suis monsieur moins de fonctionnaire. Je suis monsieur moins, je sais qui plaire. Je suis monsieur moins de fonctionnaire. Je suis monsieur moins, je sais qui plaire.
La formation, ça forme des cons, mais ça coûte un max de pognon.
L'IUFM, je fais sauter. Ce sera toujours ça de gagner.
L'agrégation, c'est juste bon, enrichir de marrons.
Fais supprimer et sans pitié, belle façon d'économiser.
Je suis monsieur moins, moins de fonctionnaire. Je suis monsieur moins, je sais à qui plaire. Je suis monsieur moins, moins de fonctionnaire. Je suis monsieur moins, je sais à qui plaire.
Moi je le crie pas, moi je le fais, moi le mammouth je le dégraisse. Je taille dans le gras et ça me plaît, je n'ai aucun doute, je le confesse.
Moi je le crie pas, moi je le fais, moi le mammouth je le dégraisse. Je taille dans le gras et ça me plaît, je n'ai aucun doute, je le confesse.
Merci à Christian Laval, la nouvelle école capitaliste. Je rappelle le titre de son bouquin qu'il n'a pas écrit tout seul. Il l'a écrit avec Francis Vergne, Pierre Clément et Guy Dreux. C'est aux éditions de La Découverte. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis, ainsi que sur le site là-bas.org, la-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission et écrire des commentaires. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur la page Facebook de l'émission. Yann Bouillot et Alice Berger étaient à la technique aujourd'hui. Bertrand Chompton et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistée de Marina Touillez. Et Grigory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de la base où j'y suis au 01 56 40 37 37.
L'été commence maintenant sur idtgv.com. 35 destinations à partir de 19 euros à réserver maintenant pour cet été. IDTGV, choisissez avec qui vous voyagez.
SNCF.
Prix soumis à disponibilité, valable pour en aller simple en seconde classe. Réservation sur idtgv.com.
France Inter, partenaire du Festival de l'Imaginaire. Du Bong Santalchum, savoureux théâtre masqué et dansé de Corée, aux extraordinaires marionnettes indiennes Yakshagana. De l'opéra populaire Hacheo du Vietnam, au rythme chaloupé des Bahamas, de la force d'évocation des Capac Negro du Pérou, à la beauté des musiques savantes du Maroc, dépaysez vos yeux et vos oreilles à partir du 9 mars. Retrouvez le Festival de l'Imaginaire dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
16h20 sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour la basse. J'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Delphine Simon. Salut.
Une nouvelle mise en examen dans l'affaire Bettencourt. Cette fois, c'est un ancien journaliste de Mediapart. Il est convoqué le 5 avril par le juge en charge du dossier. Fabrice Lhomme est mis en cause pour avoir publié des enregistrements de conversations tenues chez Liliane Bettencourt, des propos qui ont abouti à l'ouverture de plusieurs informations judiciaires. Ces informations peuvent servir de preuve, selon la Cour de cassation, ce qui n'empêche pas que le fait d'en publier le contenu puisse tomber sous le coup de la loi. Le procès en appel du Concorde s'est ouvert cet après-midi à Versailles, il y a 12 ans. Le supersonique s'était écrasé à Gonesse, dans le Val-d'Oise, faisant 113 victimes. Le procès va opposer durant 2 mois Air France à sa concurrente américaine, la compagnie Continental Airlines. L'ossuaire de Douaumont, victime d'une profanation la nuit dernière en Lorraine, un ou plusieurs inconnus ont réussi à pénétrer dans le bâtiment qui abrite les dépouilles de 130 000 soldats tués durant la Première Guerre mondiale. Franck Veilrabot de France Bleu Lorraine a joint Yves Leclerc, le procureur de la République de Verdun.
Ce matin a été découvert sur ce bâtiment qui appartient à une fondation privée d'utilité publique des dégradations qui ont été commises au cours de la nuit sur 4 soupiraux d'accès au caveau qui ont été donc brisés à l'aide d'un chalumeau. Et on suppose, puisqu'il est extrêmement difficile d'avoir un inventaire, que des crânes et des ossements donc ont été dérobés. Une enquête de flagrance a été ouverte du chef de vol aggravé et de violation de sépulture. Elle est confiée à la brigade de recherche de Verdun. L'institut de recherche criminologique de la gendarmerie nationale à Rosny-sous-Bois nous apporte son assistance technique en termes d'exploitation des traces biologiques amenées à être relevées sur les lieux. La peine encourue, donc on part sur du vol du vol aggravé, c'est 5 ans d'emprisonnement.
Des résultats records pour EADS, le géant européen de l'aéronautique et de la défense. Son bénéfice fait un bond de 87% en 2011, tiré par la bonne performance d'Airbus. Fort de ces résultats, son PDG, Louis Gallois, rejette les demandes de Berlin qui réclame des postes de direction. L'extrême inquiétude des syndicats européens face à la situation en Grèce. Dans une déclaration publiée aujourd'hui, ils dénoncent le plan d'austérité qui inflige, je cite, un degré de dévastation qu'aucun peuple ne peut accepter. La Grèce, suspendue aujourd'hui à l'opération d'échange de sa dette, les créanciers privés doivent accepter d'effacer une partie de leurs créances, faute de quoi le pays risque le défaut de paiement. L'opération prendra fin ce soir à 21h. Pour l'heure, l'Institut de la Finance Internationale, qui représente les principales banques de la planète, se montre plutôt optimiste. À Strasbourg, manifestation contre les expulsions d'étudiants étrangers. Environ 500 personnes défilent cet après-midi contre les expulsions à répétition ces dernières semaines. Les manifestants, en majorité des étudiants et des enseignants, réclament un assouplissement de la circulaire Guéant, une circulaire qui restreint l'accès à l'emploi pour les diplômés étrangers en France. Enfin, la colère de Valérie Trierweiler, la compagne de François Hollande, s'indigne après la publication de sa photo à la une de l'hebdomadaire Paris Match, son propre journal. Elle affirme dans un tweet ne pas avoir donné son accord, ni même avoir été prévenue. Depuis le début de la campagne présidentielle, la journaliste se cantonne en effet aux pages culturelles du magazine. Il est 16h04 sur France Inter. Dans une minute, place au carrefour de l'Odéon, mais tout d'abord...
Aujourd'hui, révolutions arabes.
Révolution des femmes.
Tout au long de la journée, des femmes arabes venues des quatre coins du monde témoignent.
Rabab, avocate libyenne, défend les femmes victimes de viol.
Kadhafi a utilisé à dessein ce type de crime, le viol, car il savait que le peuple libyen est un peuple conservateur. Et donc le seul moyen qu'il avait d'étouffer la révolution, c'était d'utiliser la femme pour briser les rebelles. Il pensait qu'en violant les femmes, les rebelles cesseraient de se battre. Dieu merci, les Libyens ont montré qu'ils étaient plus conscients, plus forts que ça, malgré un très très fort conservatisme. La question du viol demeure taboue, au point qu'il est encore impossible de donner le nombre de victimes.
Aujourd'hui, France Inter et Le Monde s'emparent de la question décisive du statut des femmes, un an après une révolution dont elles furent des actrices de premier plan.
Prochain rendez-vous à 17h dans le Grand Entretien, Vassila Tamzali, avocate et ex-directrice des droits des femmes à l'UNESCO, sera l'invitée de François Bunel.
À 19h20, Gilles Paris, chef du service international du journal Le Monde, répondra à toutes vos questions dans un téléphone sonne spécial présenté par Pierre Veil.
Révolutions arabes.
Révolution des femmes.
Une journée spéciale à suivre aujourd'hui sur France Inter.
Toutes les infos sur franceinter.fr.
Et tout de suite, c'est l'heure du carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour, bonjour Delphine.
Frédéric l'Odéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes, vous le savez bien, et on va évidemment situer quelques musiciennes, et puis je recevrai Philippe Binder, chef d'orchestre, chef de l'orchestre de Cannes, Alpes-Provence, Côte d'Azur, vers 16h30 tout à l'heure pour une opération qu'il mène depuis un certain temps et qui réitère avec des jeunes artistes, et oui, les jeunes c'est l'avenir, on ne le dira jamais trop, mais musicienne, oui, il y en a beaucoup qu'on aime, qu'on entend dans cette émission, mais quand on parle des droits des femmes, bien évidemment, facilement, je pense à Shu Xiaomei, la pianiste chinoise qui a été enfermée dans un camp de redressement dans son pays, et c'est grâce à la musique qu'elle portait en elle mentalement qu'elle a pu résister à ses pressions. Donc maintenant qu'elle est libre, on peut l'écouter librement, nous aussi, avec plaisir. Voici le thème et puis quelques variations sur « À vous dirais-je, maman » de Mozart.